LSD, la série documentaire, un podcast France Culture.
En 2018, après des décennies d'une corruption généralisée exercée par un pouvoir politique oligarchique et mafieux composé d'anciens assassins de la guerre, l'économie libanaise s'effondrait. Quelques chiffres, plus ou moins difficiles à corroborer, mais partout cités. 78% de la population vivant sous le seuil de pauvreté. 40 milliards de dollars détournés dans le secteur de l'énergie. Quelques heures seulement d'électricité publique par jour dans les grandes villes du Liban. 3, 4, 5 heures tout au plus. Ce deuxième épisode s'efforce de raconter quelques bribes de la vie de gens rencontrés à Tripoli et surtout à Beyrouth. Leurs déchirures et leurs attentes. Leurs refus et leurs combats.
Quand t'arrives en avion, comme l'aéroport se trouve vraiment au bord de la mer, c'est assez impressionnant. T'as l'impression que tu vas atterrir sur l'eau. Et surtout, tout de suite, tu vois, je pense, ce qu'ensuite tu verras partout à Beyrouth. Cette contradiction énorme entre ces grands immeubles gratte-ciel, signe de richesse, mais en même temps complètement vides et abandonnés, mais qui sont quand même là. Et puis les quartiers très pauvres et un peu à l'abandon. Et quand tu arrives à l'aéroport, tu le vois tout de suite parce que tu survoles la corniche. Et comme tu vas le voir, le long de la corniche, il n'y a que des gratte-ciels et des grands immeubles tout neufs. Et puis juste après ça, tu survoles le quartier chiite où se sont réfugiés les chiites qui avaient fui le sud du Liban pendant la guerre. Qui est vraiment des maisons complètement insalubres, très petites, et qui sont vraiment, qui donnent sur les pistes d'atterrissage des avions et sur la mer.
Je te souhaite d'arriver la nuit, parce que c'est assez beau d'arriver la nuit au Liban. En fait, vu qu'il y a de l'obscurité, tu vois vachement les étoiles. Et puis, comme les collines sont très abruptes, enfin, tu vois, le Liban, c'est un peu une falaise qui se jette dans la mer. Et en fait, quand t'es sur le parking de l'aéroport, tu vois, t'as une sorte de, comment dire, de voûte céleste. Enfin, t'as l'impression que la voûte céleste, elle arrive jusqu'à l'horizon, mais en fait, c'est les lumières des habitations, quoi. Moi, ça m'a toujours marqué. Mais qu'est-ce que tu vas retrouver là-bas? Enfin, qu'est-ce que tu vas trouver là-bas? Enfin, je sais pas, tu vas trouver beaucoup d'éclats de balles sur les immeubles. Tu vas trouver la vie aussi, hein.
Qu'est-ce que tu vas trouver quand tu arrives au Liban? Tu vas déjà sortir de l'aéroport. Si tu arrives la nuit, il ne va y avoir aucune lumière. Il va y avoir beaucoup de chauffeurs de taxi à l'aéroport en train de te demander si tu veux un taxi parce que tu as l'air étranger. Et tu vas leur dire non, 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 merci. Ils vont insister, tu vas leur dire non. Puis tu vas sortir de l'aéroport et tu vas arriver sur une grande avenue où il y a des petites motos qui sortent de l'ombre à droite, à gauche et que tu vas devoir... faire très attention à ne pas rentrer dans aucune d'entre elles, parce qu'il n'y a aucun code, il n'y a aucune manière de se mettre d'accord si on va faire un accident ou on ne va pas faire un accident. Puis tu vas arriver au centre-ville, tu vas passer par les grands ponts du centre-ville, puis je ne sais pas où tu vas aller. Et tu vas voir combien c'est hétérogène, combien les différences entre chaque quartier sont énormissimes. Le quartier entre le centre-ville et l'aéroport, c'est un monde. Tu vas plonger directement dans le centre-ville, puis probablement tu vas aller ailleurs. Et tu vas voir combien les quartiers ne communiquent pas entre eux. Tu vas voir combien c'est une belle ville en journée, quand il fait beau. Mais combien c'est dur de marcher et de profiter de la ville.
Je crois que vous allez être surpris. C'est assez extraordinaire parce qu'il y a tout, par exemple, il y a toutes les raisons pour dire c'est une catastrophe. Et pourtant, l'attraction que ce petit pays continue d'exercer est... proprement incompréhensible. Et moi, je crois que c'est un processus d'addiction. C'est-à-dire qu'il est tellement contradictoire en lui-même qu'il y a quelque chose qui vous retient, qui n'est pas de l'ordre de la nostalgie, qui est de l'ordre de l'addiction. C'est-à-dire, on goûte à quelque chose dont le goût est absolument contradictoire. Et on y revient.
Sors de Beyrouth, surtout. Sors de Beyrouth. Il faut voir les belles choses. Il faut voir le Chouf, il faut voir la plage au nord, il faut voir le sud. Il faut voir, bien sûr, Baalbek, la Beka, les cèdres. Ouais, balade-toi, essaie de te balader autant que possible. Si tu fais ça, ton expérience sera assez similaire à ce que tu aurais vu en 2019, en 2020, parce que les paysages n'ont pas changé. Et les gens dans les campagnes, peut-être il y a un peu moins de personnes, tu vas trouver des villages fantômes et tout. Tu vas trouver beaucoup de tentes de réfugiés dans la Beka. Mais ça, c'était même avant 2019.
Liban, présent brûlé, une histoire contemporaine. Une série documentaire d'Adrien Chevrier, réalisée par Séverine Cassard. Deuxième épisode, des vies suspendues.
Chapitre 1, Tripoli.
نعملوا مقابله مع الشعب الطرابلسي للراديو الفرنسويه اذا بدك تحكي معنا.
Je fais des entretiens dans les rues de Tripoli pour une radio française. Est-ce que tu serais d'accord pour nous parler, nous raconter comment tu vis, ce qui se passe en ce moment avec la crise?
تعودنا على الازمه هيدي صار شيء قديم مش جديد تعودنا عليها.
On s'est habitué à la crise. C'est pas nouveau. On s'y est habitué. On voit rien de nouveau. Aucun progrès. Le peuple libanais s'est habitué. Comment arranger les choses?
Et comment ont-ils fait pour s'habituer, d'après vous?
Tu es obligé de t'adapter. Rien ne dépend de toi.
Comment les gens ont fait pour s'adapter?
Comment ça? Tu as vu la situation? Qu'est-ce que tu veux faire? Moi, si j'étais chef du gouvernement, les gens qui nous gouvernent ne sont pas des gens bien. Les choses qu'ils font, ils le font pour eux-mêmes. S'ils pensaient à nous, notre pays serait une réussite. C'est le plus beau pays au monde. Mais ils ne pensent pas à nous. Ils pensent qu'à eux. Ils ne pensent qu'à leur travail, à leurs affaires. Ils font des choses qui sont. Si aujourd'hui le dollar montait à 700 000 livres libanaises, ça ne les affecterait pas tellement. En un jour, ils se font un million de dollars alors que les gens souffrent. Entre l'eau, la nourriture, le logement. Les jeunes qui n'ont pas de quoi subsister, c'est une prison pour eux, ce pays. C'est une vie, ça. Tu dois t'habituer à ça, à être humilié. Être humilié. Qu'est-ce que tu peux faire? Pour le président de la République, le pays, ça devrait être comme sa maison, comme ses parents, comme sa femme. Ce qu'il souhaite à sa famille, il devrait le souhaiter à son pays. Je m'appelle Maher. Si j'étais président, si j'avais le pouvoir, il n'y aurait pas de celui-là veut ci, celui-là veut pas ça, celui-là n'est pas d'accord. Moi, si j'étais président de ce pays, je prendrais des décisions concernant toutes les affaires du pays. L'économie, l'électricité, l'eau, la pollution, les routes, l'éclairage des rues, les salaires. Je ne chercherais pas des choses qui pourraient me bénéficier à moi, des choses pour faire marcher mes affaires. Ce n'est pas une façon de faire.
Et toi, tu as fait quoi pendant la révolution? Tu es descendu dans la rue?
On est descendu dans la rue. Mais à quoi ça a servi? J'ai crié, j'ai hurlé. C'est comme si tu disais à ton père, « Papa, je n'ai rien à manger. » Et lui, il détourne la tête. Qu'est-ce qu'on a obtenu? Rien. Ce père a un cœur de pierre. Il t'a mis au monde et il ne s'occupe pas de toi. Mais comment l'accuser? Il n'y a qu'auprès de Dieu que tu peux l'accuser. On était au bord du gouffre, mais on s'est habitué. On nous a poussés. Et maintenant, on essaye de nager, on se noie. C'est pas une vie, ça.
Comment vous appelez-vous ?
Je m'appelle Mariam Takla.
Vous êtes de Tripoli ?
Oui.
Et comment vivez-vous en ce moment ?
Tout va bien, grâce à Dieu.
C'est vrai ? Il n'y a pas de crise ?
Bien sûr qu'il y a une crise, il n'y a plus que ça. Qu'est-ce que je peux te dire sur cet État ? C'est un État gouverné par le Hezbollah. Il a laissé tous les prix augmenter. C'est le Hezbollah qui dirige le pays. On n'élit pas de députés. Si eux veulent des députés, ils les choisissent à leur goût, comme Aoun. Il choisit l'État entier. Il faut un président choisi par le peuple. On voudrait quelqu'un qui travaille pour le bien du pays. On ne veut pas de quelqu'un affilié au Hezbollah. Le Hezbollah m'a épuisé, m'a détruite. Il a épuisé le Liban. Regardez, tout est devenu tellement cher. Regardez, ils n'ont rien laissé. Ils se sont mêlés de tout, de l'économie, du commerce, de tout. Il n'y a pas une chose dont ils ne se sont pas mêlés. Même les banques. Celui qui a de l'argent, on le lui a retiré. Celui qui a de la famille, celui qui a des enfants et veut les scolariser, il n'a plus de quoi le faire. Ils ont tout gardé pour eux. Scolariser leurs enfants. Les faire vivre dans la sécurité, alors qu'on ne peut plus le faire pour nos enfants. Et tout le Liban est dans cette situation. Tout le Liban. Sauf la classe politique. Eux monopolisent le pays. Tout est pour eux. Et c'est tout. Nous, on n'en veut pas. Ils nous ont fait croire qu'ils étaient là pour résister à Israël. Des menteurs. Ils se sont mis d'accord avec Israël et les États-Unis. Des menteurs. Et ils font ça sur le dos du peuple libanais, eux et l'Iran. On ne peut pas les laisser nous combattre en utilisant notre propre économie et nos propres moyens de subsistance. On ne va pas céder à ça, même s'il faut mourir. C'est le parti de l'Iran, on ne va pas se soumettre à eux. Et la France, dis à ton président qu'on ne sera pas leur allié s'il décide de s'allier avec le Hezbollah. On veut un président libanais qui travaille pour son pays, c'est tout. Pour le Liban et c'est tout. La Syrie de Hafez el-Assad nous a gouvernés, nous a détruits. Il a détruit Tripoli. Regarde la gare, regarde toutes les usines. Hafez el-Assad a tout détruit. Et maintenant, son fils l'a remplacé. Et maintenant, il détruit la Syrie. Ce n'est pas juste ma voix, c'est la voix du peuple entier. Tout le monde a peur, mais moi je n'ai pas peur. Les gens sont dépités, mais ils n'osent pas parler. Moi je n'ai pas peur de parler. Au revoir et bienvenue.
Toi, tu as fait la révolution ?
Oui, au début. Et quand je vis qu'il n'y avait pas de résultat, que ce n'était que de la danse et de la musique, j'ai arrêté. Quand je vis que l'armée libanaise n'était pas de notre côté, je me suis retiré. Faire face aux militaires, c'est comme faire face à mon frère, à mon oncle maternel ou mon oncle paternel. On n'a rien obtenu. Il faut que les politiciens nous laissent vivre. Qu'ils fassent des réformes générales, qu'ils trouvent des solutions de leur côté. Nous, les choses ne sont pas vraiment entre nos mains. On est obligé de vivre avec.
Pendant combien de temps as-tu participé à la révolution ?
Un mois environ. La dernière fois que je suis descendu, on a fait une grande chaîne humaine dans la rue.
Pourquoi ?
Parce qu'on n'a rien obtenu. On est descendu du nord au sud, main dans la main, et on n'a rien obtenu. À Tripoli, regarde. Il n'y a aucun projet. Il n'y a pas d'usine, il n'y a pas de travail. J'ai rencontré quelqu'un de Beyrouth qui m'a dit, moi, si j'étais de Tripoli, je me serais suicidé. Je lui ai demandé pourquoi. Il m'a répondu, Parce que le chef de gouvernement est un enfant de Tripoli et qu'il n'y fait rien. Tripoli est pauvre de façon générale. On n'a rien obtenu, je vous jure, on n'a rien obtenu. Je m'appelle Mahmoud.
Chapitre 2, Beyrouth.
Gabriel Kerala est père jésuite, professeur et responsable du Cercle de la Jeunesse Catholique à Beyrouth.
Ça existe depuis un siècle, mais il a été réactivé à partir de 2019-2020. Avec les manifs qui ont commencé, et fin 2019, début 2020, il a pris de l'ampleur. Et on avait senti qu'une crise économique est en train de couver. Moi, j'étais avec des collègues profs de l'université, et tous on sentait la crise économique allait exploser. Donc on a voulu anticiper cela en redonnant un peu de l'ampleur à ce centre. On a ici trois activités. Nourriture, soit on distribue aux personnes que vous voyez ici de la nourriture cuisinée par les personnes de la paroisse, c'est une cuisine faite maison. On a également des caisses alimentaires à certaines familles, donc ça c'est le volet alimentaire. On a un volet médical avec un dispensaire où on donne gratuitement des médicaments, mais bien sûr selon un protocole bien déterminé. Et également on aide à l'hospitalisation parce que les hôpitaux au Liban, enfin il y a un hôpital public qui est dégringole, enfin qui n'existe plus pratiquement avec l'effondrement de l'État. Beaucoup de personnes se font soigner dans des hôpitaux privés et donc nous ici on aide dans la mesure du possible, on contribue à aider les frais d'hospitalisation.
Vous avez rouvert cet endroit au moment où vous avez senti que la crise économique revenait. Alors quels sont les indices qui vous ont laissé sentir ça? Est-ce que vous pourriez nous donner des exemples?
On avait vu déjà avant octobre 2019, la Banque centrale avait un défaut de paiement d'essence et défaut de paiement des médicaments. Donc les devises ne suffisaient plus. Et puis quand on commençait à manifester, le dollar a commencé à grimper. Et là pour moi c'était le premier indice. On dit tiens, l'inflation est en train de monter, qu'est-ce qui va l'arrêter? Parce qu'à un moment, le dollar était maintenu artificiellement à 1500 livres libanaises. C'était une maintenance artificielle par un artifice de la Banque centrale. Et on sentait que...
Qu'on comprenne bien, un dollar...
C'était 1500 livres libanaises. Et tous les salaires sont indexés au dollar, parce que le Liban pratiquement importe tout. Et la monnaie était dollarisée. Et donc, pendant les manifs, on commençait, il montait à 1700, 1800, 2000. Et puis, les prix ont commencé petit à petit à grimper. Là, on s'était dit, on va vers une crise. On dit, cet artifice qui a maintenu le dollar à 1500 est en train de sauter. Parce que le Liban vivait aussi grâce aux aides occidentales. Et le Liban, la dette libanaise actuellement, elle est de 200% par rapport au PIB. Alors, on manifestait avec des profs d'économie, on se disait, inflation, défaut de paiement, c'est-à-dire crise économique. Et donc nous, on a anticipé, on a commencé donc à collecter des denrées alimentaires, les caisses alimentaires, parce qu'on s'était dit, certainement, toute une classe moyenne va être sacrifiée. C'était clair. Et au début, on n'avait pas beaucoup de demandes. Et puis d'un coup, c'était exponentiel. Les demandes ont explosé, quoi. Je prends ma tante, par exemple, qui était infirmière. Elle a travaillé toute sa vie comme infirmière. Elle avait un salaire très décent. Elle vivait bien. Et puis, avec la dépréciation de la livre libanaise, et puis beaucoup, c'est arrivé à ma tante, ce qui arrivait à tous les Libanais, l'argent qui est à la banque a été bloqué par les banques. C'est-à-dire, les banques, vous avez dû entendre parler de ça. Donc, ma tante se trouve, elle est pauvre. Elle était une retraitée aisée. Elle a travaillé toute sa vie, elle faisait des heures sup pour avoir une bonne retraite. D'un coup, elle dépend maintenant des aides d'une ONG qui l'aide, parce que son argent à la banque, et d'une part, il est bloqué, d'autre part, il ne vaut plus grand-chose. Voilà, je vais monter, vous allez rencontrer là. C'est par la pharmacie.
Donc là, on monte à la pharmacie.
À la pharmacie, oui.
Ici, on a les patients qui viennent au service social pour pouvoir s'enregistrer.
Marita Abou Jaoudé.
Le service social voit la situation de la famille. Elle dit si c'est OK pour les médicaments. Quand c'est OK pour les médicaments, il m'envoie via WhatsApp la prescription. Après avoir vu notre médecin, il nous envoie la prescription. On voit ce qu'on peut amener des médicaments parce qu'il y a une pénurie de médicaments un peu au Liban et ça devient un tout petit peu cher pour les personnes âgées qui sont tout seules. Donc, on amène les médicaments, on prépare dans des sacs chaque mois avec un rendez-vous. Ils viennent prendre le médicament régulièrement chaque mois. On essaye de ne pas couper, on essaye d'être avec eux chaque mois. On a des aides qui viennent de France, des aides qui viennent un peu partout dans le monde. Et on a des aides qui viennent, on peut acheter d'ici du Liban des médicaments pour pouvoir aider les personnes. On a les médicaments pour le clopidogrel, c'est pour l'anticoagulation. On a le Zyorel pour tension. On a Gabrica pour le nerf sciatique.
Oui.
Quand on est certain, on a ça pour le Zoloft.
Et ça, vous pouvez me donner un ordre d'idée de quel est le plus cher, par exemple, par rapport...
Ici, le plus cher, ça, c'est, ça on n'a pas au Liban maintenant.
Ça, c'est quoi, donc?
La sertraline, le Zoloft, on ne trouve pas au Liban.
C'est un psychotrope.
On a quelques... Oui, psychotrope. On trouve quelques-unes chez nous ici parce qu'on a amené de France. Il y a des particuliers qui nous amènent de France. Ça, on ne trouve pas. Ça, au Liban, une boîte, ça coûte une boîte de 20 comprimés, 1 million. C'est cher. Mmh. 1 million. 1 million, ça représente 10 dollars. Une boîte de médicaments.
Mais par rapport au salaire moyen en livres libanaises ?
Ça représente le quart de son salaire. Si une personne touche toujours de la livre libanaise, c'est un quart de son salaire. Et il ne peut pas ne pas prendre, parce que ça, il doit prendre... Il y a le cinémètre, c'est pour le Parkinson. Donc il prend, je pense, 3 comprimés par jour. Donc il a besoin de 3 boîtes, 4 boîtes par mois.
Donc en fait, ça,
ça c'est son salaire.
Ça, c'est son salaire. Quoi.
Donc si une personne a un de ses parents qui a le Parkinson et qui a besoin du cinémètre... Et là, il dit au revoir à son salaire. Et oui. c'est ça la difficulté.
Et c'est un médicament.
Ouais.
C'est un médicament. On ne parle pas des frais d'hospitalisation, on ne parle pas des autres médicaments, les frais de nourriture, le générateur électrique, parce que le banc, il n'y a pas d'électricité souvent, elle est coupée. Donc, on paye des individus qui ont un générateur, donc je ne sais pas combien de dollars au kilowatt. Et donc, si vous avez 5 ampères, c'est ou par 10 ampères.
100 dollars.
Donc, voyez la détresse des ménages libanais. C'est la détresse de 80 à 85% des ménages libanais. C'est les ONG qui font travailler le pays, qui font vivre le pays. D'après les économistes, on dit que le pays est dopé parce que l'État est aux abonnés absents. Par exemple, je prends un exemple, le ministère de la Santé. Vous allez au ministère de la Santé. Actuellement, ils aident un peu pour les médicaments du cancer. Mais tous les autres médicaments qui étaient subventionnés par le ministère ne le sont plus. Et les hôpitaux publics sont pratiquement défaillants. C'est-à-dire, il y a de plus en plus de dispensaires actuellement qui sont en train d'ouvrir et de plus en plus d'aides qui viennent. C'est-à-dire aussi, ce qui aide beaucoup les familles libanaises, c'est les aides des Libanais de la diaspora qui envoient beaucoup d'argent par OMT, par Western Union. On estime actuellement que c'est 4 millions de dollars par jour qui rentrent au Liban. Parce qu'il y a presque 20 millions de Libanais à l'étranger et c'est grâce à eux qu'il n'y a pas encore une famine au Liban. Contrairement à un pays comme la Syrie, où il y a vraiment des pénuries alimentaires. Donc c'est grâce aux Libanais de la diaspora et grâce aux ONG que 85% de la population arrive à survivre.
Écoute, je ne sais pas comment l'expliquer, mais tu nais, tu ne sais pas, tu n'as pas de futur. Le rêve d'un Libanais, depuis les années 70, le rêve d'un Libanais, c'est de... finir les études et d'aller vivre soit en France, soit au Canada, soit, je sais pas, dans un pays arabe. C'est toujours ça. Si t'as, if you want to achieve something in Lebanon, is that when you go to another country and start working outside. Ça fait 2000 ans qu'il y a ça, parce que depuis l'âge des Phéniciens et tout ça, il y a ce truc. Mais en gros, ouais, on pense pas à un futur au Liban. Tu peux pas penser à, ce qu'un jour tu vas commencer un business au Liban, parce que le Liban c'est pas un pays stable. Tu penses toujours à fuir ce pays parce que rien n'est stable. Il y a eu la guerre civile quand il y avait mes parents, il y a eu la crise économique en 90, il y a eu la guerre en 96, il y a eu la guerre en 2006, la crise économique en l'année 2000. Donc moi je suis né en 96 et depuis que je suis né il y a des épisodes et tu penses toujours que Je dois quitter ce pays, tu vois. Mais c'est tellement dur, c'est une love-hate relationship. Tu veux quitter ce pays, mais en même temps, tu vois tous ces gens qui viennent de l'Occident et tout, qui viennent au Liban pour vraiment, et à force de traîner avec des gens qui viennent pas du Liban, des Européens et tout, ils t'aident à re-aimer ce pays, tu vois. Et là, après, tu penses que eux, ils ont un plan B, ils peuvent se casser à n'importe quel moment, tu vois. Et toi, t'es là, t'es peut-être enfermé s'il y a une guerre qui va se passer, s'il y a Israël qui va venir et qui va bombarder le pays, s'il y a les Syriens qui vont bombarder le pays aussi, comme dans la guerre civile, quoi. Tu vois, et ça, ce truc, tu penses que t'es renfermé dans ce pays et en même temps, tu l'adores et en même temps, tu le hais et en même temps, donc... bah ouais, tu trouves que t'as pas de futur, là, tu vois. Tu vis le day by day, quoi. Tu te débrouilles avec du n'importe quoi. tu fais des commissions avec, je sais pas, tu vends des apparts, tu loues des apparts, tu fais plusieurs 4-5 jobs en même temps. Tu fais, par exemple, je fais des études de cinéma, je travaille dans des tournages. Le soir, je suis DJ, l'après-midi, je loue des apparts, tu vois. Tu fais plusieurs trucs en même temps juste pour survivre. Tu ne penses pas au lendemain. Et tu fais la fête avec tout ce cash, tu peux faire ça, tu peux faire tous tes sous. Et s'il y a une grosse fête, parce qu'on est un peuple qui aime faire la fête, on fait la fête 3 jours d'affilée, quoi. Parce qu'on veut. At some point, we need to forget what's happening. C'est un escape. C'est ça d'être Libanais, tu vois. Tu dois t'adapter à tout ce qui se passe. Là, demain, il y a une crise d'eau, quoi. Il y a toujours des compagnies privées qui vont venir et te vendre de l'eau, tu vois. L'électricité, ça coupe. Tu achètes une batterie, tu achètes des panneaux solaires et tu trouveras toujours une façon comment tu peux survivre, quoi. Et en plus, il y a, le pays, c'est pas... Genre, là, par exemple, dans mon quartier, okay, c'est à Jaïta, oui. C'est tous des vieux. Tu peux toujours demander de l'aide à n'importe qui. Et n'importe qui peut t'aider, tu vois. C'est pas une question de mendier dans la rue, demander des sous, mais... Y a toujours la famille qui te supporte, là. Y a toujours mes oncles, mes tantes, mes cousins, tu vois. On s'aide toujours. Et ça, c'est un... je trouve que c'est un plus, quoi. Dans notre community, dans notre vie quotidienne et tout. Y a toujours les parents, y a toujours ça. Et on s'aide toujours, tu vois. It's natural. You are naturally born Lebanese. You think that way. You can always find a way how to help yourself in any fucked up situation. So yeah, that's it. Tu sais, au Liban, on parle 3 langues, donc... Je m'appelle Gérard Elbitar. J'ai 27 ans. Je suis... je sais pas c'est quoi DJ en libanais. DJ, producteur de musique. Et mon métier, c'est d'être libanais, quoi.
Comment on dit en arabe, mon métier, c'est d'être libanais.
Cherle noukoun libanais. C'est vrai, ça. C'est un métier d'être libanais, tu vois. C'est plus une question d'oublier ou une question de la résilience, entre guillemets, parce que la résilience, c'est un truc d'être... c'est juste un label que tu colles sur un peuple qui est comme ça. C'est plus une résilience, ça. Je sais pas c'est quoi le mot pour définir cette situation qu'on vit, mais c'est pas la résilience. On a dépassé le point de la résilience.
Pour moi, c'est un mot double tranchant, la résilience. C'est un mot un peu tarte à la crème, on a mis partout. Et pour moi, on confond souvent des résiliences et des missions. Peut-être après, pendant la guerre, on a vécu une certaine résilience. Moi, je suis un enfant de la guerre, on habitait juste à côté, à l'une de démarcation. C'est pendant la guerre, on continuait à vivre tant bien que mal. Ça, c'est une forme de résilience. Maintenant, c'est plus de la résilience, c'est une forme de peut-être subsistance, elle est juste.
Camille Hamoun.
Oui, alors la résilience, c'est un mythe chez les Libanais, chez les Beyrouthins. Je propose un terme qui soit le contraire de la résilience. Bon, déjà, la résilience est une idée ou un concept qui est inscrit dans l'inconscient libanais et des Beyrouthins depuis longtemps. Beyrouth, il y a le mythe d'une Beyrouth 7 fois détruite, 7 fois reconstruite. Et ça fait un moment, pas qu'au Liban d'ailleurs, un peu partout, les gens, j'ai l'impression, en ont marre de cette injonction à la résilience. Il faut que ça aille absolument bien et qu'on se remette de tous les drames qu'on est en train de vivre et de tous les chocs qu'on est en train de vivre. Eh bien non, en fait, je ne pense pas. Et du coup, je propose un contre-concept qui soit le contraire de la résilience et qui serait la subsidence. Si on revient à la résilience est un terme qui vient à la base de la physique. Donc un objet résilient est un objet qui... Un matériau résilient est un matériau qui, après un choc, reprend sa forme originelle. Et... Pour moi, la subsidence, ce serait le contraire de ça. Ce serait un matériau qui subit un choc et qui ne reprend pas sa forme originelle après le choc. Ça ne veut pas pour autant dire qu'il est mort ou qu'il n'existe plus, mais il n'est plus le même et il garde... C'est un affaissement. Et la subsidence, c'est un terme qui vient de la géologie et qui décrit l'affaissement des sols. Donc c'est un affaissement et c'est un mouvement géologique irréversible. Et comme la résilience au cours du siècle précédent est passée de la physique aux sciences humaines, je propose de faire passer la subsidence de la géologie aux sciences humaines pour décrire comment, après une une sédimentation des drames, une succession de drames, quand un drame chasse l'autre, finalement, même si on a l'air d'aller bien, en fait non, on n'est pas résilient, on est subsidant parce qu'on est sous le niveau.
Là, vous avez le sentiment d'une société qui s'affaisse progressivement.
Une société qui s'affaisse, une ville qui se décompose. Quand on je reviens toujours vers ce centre-ville de Beyrouth qui a été rasé par son entreprise de reconstruction. Il n'existe plus. Ces quartiers rasés ne reviendront pas. Les traumas du 4 août, on ne s'en remet pas. La perte de richesse, la perte de notre épargne qui a été spoliée par des montages financiers élaborés par la classe politique et financière dirigeante de ce pays, on ne les récupérera sans doute pas. Les élites intellectuelles et politiques du Liban qui ont été assassinées successivement ne reviendront pas. Toutes ces pertes-là, on ne les récupérera pas. Et donc pour moi, ça c'est de la subsidence. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas continuer à vivre, continuer à se battre, continuer à, comme vous le voyez dans les rues, à faire avec, à survivre aussi. Mais de résilience, moi je n'en vois pas. Et il y a un groupe social qui est résilient au Liban, c'est la classe politique libanaise. La classe politique libanaise s'est montrée extrêmement résiliente face à toutes les pressions et les chocs qu'elle a subis. Et elle conserve encore aujourd'hui énormément de ressources pour se maintenir au pouvoir. Des ressources financières, des ressources politiques, des ressources symboliques, des ressources communautaires, des ressources liées à leurs relations internationales avec des chefs d'État régionaux ou internationaux. La classe politique, contrairement à la population libanaise et à la ville de Beyrouth, est résiliente aujourd'hui, malheureusement.
Beyrouth, c'est le son des voitures qui klaxonnent, le son des motos, le son des gens qui gueulent dans la rue, le son des cloches de l'église, le son de l'appel, de la prière des mosquées, le son des vendeurs de café sur la corniche, le son des vendeurs de maïs qui passent entre les rues, le son des vendeurs de karak.
Tarek Tomé.
C'est ça le son de Beyrouth. Et je pense que les vendeurs de café et de maïs ne sont plus là. Mais tout le reste est toujours là. Va à la corniche. La corniche, c'est devant l'université américaine de... Ça s'appelait l'avenue des Français il y a longtemps. C'est une très longue promenade qui fait plus ou moins tout le cap du nord de Beyrouth. Ça s'appelle Ras Beyrouth, la tête de Beyrouth. Et c'est marchable, c'est le seul endroit public qui a une fonction publique vraie, où tout le monde, tu peux trouver des gens de partout, de toutes les couleurs, toutes les formes. Si tu passes du temps là-bas, c'est l'endroit où tu as les meilleures chances d'obtenir un échantillon large de ce à quoi ressemblent les gens. Si tu vas parler aux gens là-bas, ils vont croire que tu es un espion, mais c'est pas grave. Tu peux juste observer. Et tu vas voir des gens qui font des patins, tu vas voir des gens qui font du vélo, tu vas voir des gens qui achètent des petits trucs aux vendeurs de rue. C'est un endroit assez vivant, c'est très beau. C'est mon endroit préféré de Beyrouth, la corniche.
C'est la corniche de Beyrouth, mais on est au nord de la ville. C'est un espace complètement bétonné. Je crois que les Beyrouthains ont beaucoup souffert de ça, justement, que cette corniche avait été entièrement bétonnée, qu'il n'y avait plus aucun accès direct à la mer. Il y a un vélo qui passe, c'est devenu un lieu de promenade. Deux femmes avec un chien en laisse, la laisse est rouge, un homme en vélo, une femme en vélo, deux hommes avec un café en main. Il passe assez vite. un homme au téléphone, marche d'un bon pas. Il porte un t-shirt rouge et un pantalon noir à rayures blanches. Ah oui, et puis devant nous, toute la ville, qui s'étale avec beaucoup, beaucoup de bâtiments hauts, enfin, qui ont pour certains été construits d'ailleurs très récemment, pour certains qui ont été construits après l'explosion du port, qui est un peu plus sur notre gauche, et puis pour d'autres qui correspondent aux années 90, au début des années 2000, et les grands chantiers de la compagnie de Rafik Hariri, qui s'appelait Solidaire. Et on a complètement une vue à 360 degrés, et puis derrière, puisque c'est une corniche, derrière la mer, un long bateau, un autre qui passe à l'horizon, une femme qui passe en courant, t-shirt vert, elle regarde sa montre, un enfant derrière nous, t-shirt à rayures, une fille à vélo, l'air très heureuse, même épanouie.
Les gens ont l'air heureux.
Ouais. Ouais, les gens ont l'air étonnamment heureux. Ouais. Et quelque chose de très paisible, quoi.
Peut-être qu'il vient de l'extérieur et regarde la vie qui se passe au Liban. Il dit que c'est un pays un peu complexé, car c'est pas trop clair la situation économique. Parfois, tu vois les 10% de cette population qui est déjà le 10% qui gagne toute la richesse qu'il y a, où la richesse se concentre 90%. C'est elle qui se trouve partout en train de se fêter. Mais la réalité est plus dure et la réalité se trouve derrière, au niveau des enseignants, des ouvriers, de la classe ouvrière, des publics, surtout au niveau public et privé.
Yana Samarani.
Et si on parle des enseignants au Liban, il y a deux parties. Il y a les publics et il y a les privés. Et malheureusement, au Liban, l'enseignement public a dégradé à un moment que l'enseignant qui commence, par exemple, sa carrière à 1 500 000, qui vaut avant la crise 1 000 $, maintenant, ça a devenu moins que 50 $. Donc, avec l'augmentation des prix et de dévalorisation de monnaie, il a perdu à peu près, on peut dire, 3/4 de son salaire. Et le pays, d'une façon vraiment très, très incompréhensible, a tout à dollariser. Donc maintenant, tu payes la maison en dollars, tu payes le mobile en dollars, tu payes tout en dollars. Et tous ces profs-là, qui ont à peu près, le chiffre, si je suis pas sûre, au privé, c'est à peu près 26 000 employés, qui ont payé moins que 50 $ par mois. Et on a une migration, on peut dire, des profs pour les pays arabes, pour d'autres pays. Ils cherchent. L'année passée, seule, il y a plus que 6 000 profs qui ont quitté l'enseignement privé.
Mais comment vous faites concrètement?
C'est une grande question. Comment on fait par-ci, par-là? Il y a toujours des familles qui ont d'autres familles dehors qui envoient de l'argent, de dollars, de par-là. Maintenant, il y a des profs qui travaillent dans deux écoles. Par exemple, moi, je fais le travail dans deux écoles ici, au grand lycée. Il y a d'autres profs qui sont en train de donner des heures sup et des heures sup et des heures sup, des heures privées. On travaille deux ou trois job. Il y a d'autres profs que je connais très bien. Ils vont ouvrir d'autres magasins, quelque chose de, comment dire, de faire des petites choses, des bijoux, des trucs. Ils cherchent pour continuer le mois. Oui. La retraite maintenant, c'est le grand problème. Vous savez combien ils payent? Par exemple, 2 millions. 2 millions, ça veut dire en dollars, c'est pas plus que 20. Chaque jour, ça change le taux. Et maintenant, même les banques, ils ont mis un plafond. Un plafond, ça veut dire, dans une semaine, tu ne peux pas retirer plus qu'un pourcentage de ton salaire. Et c'est ça le grand problème. Une fois, ils ont tombé malades, ils sont en train de mourir. Ils sont pas en train de faire leur check-up. Ils sont pas en train de faire des... Et on a des chiffres au niveau des retraités qui sont en train de mourir. Et en plus, les prix des médicaments est devenu fou. Il y a des gens qui meurent en silence et personne ne sait qu'est-ce qui se passe avec ces gens-là. Il y a les profs qui sont en train de faire la grève, mais même
faire la grève et après il n'y a pas d'argent. L'État dit j'ai pas d'argent et la situation s'aggrave jour après jour. Et même par exemple mon père il était ingénieur, il est maintenant retraité, il a un peu d'argent à côté, il peut pas toucher.
Mais ça, revenons là-dessus, parce que c'est une chose qui va sans doute paraître hallucinante à l'oreille des gens qui n'ont pas compris.
C'est hallucinant, oui, oui. Ça fait 3 ans que l'argent est bloqué. Tu retires un pourcentage, tu dois faire quelque chose pour retirer les $200 ou $400 par mois, et ça dépend, il y a des conditions, des papiers à signer, et pas tout le monde peut retirer l'argent, oui. C'est ça la situation.
Et vous voulez pas braquer votre banque comme cette femme
Ils ont beaucoup essayé, oui, il y a beaucoup de gens. Mon père, je l'ai échappé plusieurs fois de faire quelque chose. Vraiment, il n'arrive pas à comprendre comment lui, après toutes ces années qu'il a travaillé, il ne peut pas toucher l'argent qu'il a mis à côté pour sa retraite.
Chapitre 3, la question syrienne.
C'est un sujet extrêmement sensible, je pense le plus sensible actuellement au Liban et où il est très très difficile de se positionner.
Anthony Samrani et Caroline Hayek.
D'un côté, on a 2 millions de personnes. Il s'avère qu'ils sont syriens, mais ils pourraient être espagnols, pakistanais, vénézuéliens, que ça ne changerait pas fondamentalement la donne. Pour un pays qui fait la taille du Liban, qui a une population entre 5 et 6 millions de personnes, donc ça fait quasiment un tiers de la population, c'est sûr que ça crée des fantasmes, ça crée une perception d'une menace démographique, et on peut la comprendre. On peut la comprendre. À cela s'ajoute le fait que, et là c'est clairement lié au fait que ces personnes sont syriennes, beaucoup de Libanais voient ça comme une nouvelle forme d'occupation. Ils oublient d'ailleurs que la plupart de ces Syriens ont fui le même régime qui a occupé le Liban. Donc, est-ce que la présence de 2 millions de Syriens ont un impact sur la vie politique, sociétale, économique libanaise? Oui, c'est évident et ce serait mensonger de dire le contraire. Est-ce pour autant que c'est le grand mal aujourd'hui du Liban et qu'on les considère comme responsables de la crise? Et si les Syriens demain sont amenés à quitter le pays va tout de suite redevenir un Eldorado? C'est un fantasme, et c'est un fantasme que véhicule la plupart des populistes qui ont intérêt à trouver un bouc émissaire extrêmement facile. Donc il faut qu'on arrive à prendre un peu de recul et avoir un discours un peu plus rationnel et scientifique sur cette question, qui permette de prendre en compte le fait que le Liban ne peut pas supporter, si je peux parler ainsi, à long terme, la présence d'autant de réfugiés, le fait que la communauté internationale est tout de même assez hypocrite parce qu'elle-même ne veut pas accueillir ces réfugiés et est très contente que les pays tiers s'en occupent. Et la troisième chose, c'est qu'il y a une partie de ces réfugiés qui encourent de vrais risques s'ils devaient rentrer en Syrie pour leur vie, qui sont directement menacés par le régime. Et là, je pense que le Liban a un vrai devoir de responsabilité à leur égard.
Là, ce qu'on ressent en ce moment, notamment ce qui est dû à l'aggravation de la crise, c'est un sentiment de rejet complet d'une partie de la population libanaise. Il y a de temps en temps, tous les mois, 2-3 mois, des sortes de poussées de fièvre où la population se met à parler de manière très libre sur les réseaux sociaux, dans les médias. On voit des politiciens qui passent sur les plateaux télévision pour dénoncer la présence des réfugiés syriens et qui appellent à leur retour. Et donc, il y a aussi des relents racistes qui ressortent évidemment à ce moment-là et énormément de désinformation. Par exemple, les plus gros clichés qu'à chaque fois on combat, je ne sais pas combien d'articles on a dû écrire à la rédaction sur la question de l'argent perçu par les réfugiés syriens mensuellement, de l'argent reçu par les Nations Unies, hein, c'est absolument pas le Liban qui paye. Pour certains Libanais, les Syriens reçoivent chaque mois une somme en dollars. Alors, ils ont des idées de sommes aussi faramineuses. Sauf que c'est pas le cas. Cet argent-là, c'est une toute petite somme qui tourne autour de $30 par famille et qui est payée en livres libanaises. Il y a d'autres clichés, bien sûr, sur le fait que les Syriens volent le pain des Libanais, le travail, qu'ils font énormément d'enfants, donc ça pèse sur l'économie, ils prennent les logements. Ça, c'est des clichés aussi qu'on essaie de combattre à chaque fois. Il faut savoir que l'État libanais ne débourse rien vis-à-vis des réfugiés syriens. Ça, c'est vraiment des dons qui proviennent de l'étranger. Et il y a un autre problème aussi qui s'est dégagé, c'est que ces réfugiés syriens ne sont pas régularisés. Donc, ils travaillent forcément, pas tous, au noir. Ils sont logés, ils s'entassent à plusieurs dans des appartements, et ça, c'est illégal. Donc, c'est vrai que l'État libanais se sert de ces choses-là pour pouvoir ensuite les renvoyer dans leur pays. Il faut savoir que la majorité des Syriens... au Liban, quand ils parlent aux HR ou aux journalistes, ils nous disent « Nous, on ne veut pas rester ici. C'est un pays qui ne veut pas de nous. Les gens sont extrêmement racistes. On vit dans des conditions misérables. Et puis, notre pays nous manque. Il faut savoir que ça fait des années qu'ils sont partis. Ils aspirent à rentrer au pays, mais ils ne peuvent pas rentrer. Un, les jeunes hommes, parce qu'ils savent qu'ils vont être enrôlés dans l'armée. Et deux, il y a des risques vraiment sécuritaires. Si vous êtes un dissident, vous avez quitté le pays à partir de 2011, vous pouvez très bien vous retrouver dans une geôle du régime syrien et d'être tué.
Dominique Edé.
Il y a, oui, un nombre de Syriens écrasant par rapport à la population libanaise. Je suis évidemment de ceux qui se battent contre toutes les formes de racisme qui viennent se greffer sur cette situation démographique et qui font porter à ces malheureux des responsabilités qui ne sont pas les leurs. Mais c'est ça la très grande difficulté. Je vais vous donner un exemple. J'étais dans une voiture... Vient vers moi une femme libanaise, visiblement quelqu'un qui avait des moyens et qui n'en avait plus du tout, et qui mendiait pour manger. Bon, je l'ai soulevé dans mon sac et elle me remercie, s'éloigne, et puis je vais retrouver la réfugiée syrienne avec qui je travaille, qui se trouve à être voilée des pieds à la tête parce que c'est les usages, parce que c'est l'histoire familiale, etc. Et donc, c'était l'antiportrait de cette femme blonde, abîmée, que je venais de quitter une minute plus tôt. Me voyant face à elle, la femme blonde revient sur ses pas, se précipite sur moi, et me dit « Est-ce que tu veux que je te débarrasse d'elle ?» J'avais là un raccourci absolument accablant de la situation dont vous parlez, c'est-à-dire que socialement, les deux étaient dans le même besoin. L'une était libanaise, l'autre était syrienne. Si il m'avait été donné de les réunir autour d'une table et de laisser encore une fois leurs histoires communiquées, l'une ne m'aurait pas dit « Est-ce que tu veux que je te débarrasse de l'autre ?» Mais c'est ça le premier instinct. Donc nous avons maintenant une situation oui, gravissime, où la haine, le pays est un terreau pour la haine actuellement. C'est un terreau quand je vais à Aïssel. Les femmes avec qui je travaille sont formidables parce qu'elles ne tombent pas dans le racisme. On a une jeune Syrienne qui travaille avec nous, mais je vous assure qu'on traverse des kilomètres de camps syriens et qu'il n'y a pas de pays qui peut supporter autant. Donc il y a un vrai problème. Ça ne veut pas dire que humainement ce soit acceptable d'être raciste. Il faut pouvoir dire plusieurs choses en même temps. C'est terrible, mais c'est comme ça.
Chapitre 4, Exil.
quelle alternative? On n'est pas tous des... Moi, je suis un religieux, je suis prêtre. Moi, ma vie, à la rigueur, c'est le sens de ma vie d'être tourné vers l'autre. Mais un jeune étudiant qui a envie un jour de fonder une famille et d'avoir un avenir avec une classe comme celle-ci, en plus avec un parti totalitaire qui veut nous empêcher de réfléchir, de penser, quelle alternative vous reste à part l'immigration? Je vous donne un exemple, Adrien. J'étais dans une classe, je m'appelle 26 étudiants. Dès qui veut partir, le 25 m'a levé. Qui veut rester? Un étudiant a levé la main, dit « Moi, j'adore ce pays, je ne peux pas vivre en dehors de ce pays. » Mais il y a quand même 25 mains levées sur 26. L'année d'après, à Triple J, avec une autre consoeur, c'était un amphithéâtre de 70 étudiants. Qui veut partir? 70 mains levées. C'était à Tripoli, 70 mains levées. Et qui veut rester? Alors après, je ne sais pas l'avenir, comment il va être fait. Vraiment, je ne sais pas. Je vis au jour le jour. Et je sais tout ce que je sais, je vais continuer à me battre. De toute façon, on ne peut pas baisser les bras parce qu'il y a des gens qui dépendent de nous. Donc, au moins pour eux. Et puis après, Inch'Allah.
Je m'appelle Anaïd, je suis sound designeuse depuis maintenant 23-24 ans. Je vis à Beyrouth jusqu'à maintenant. Je suis Anaïd, je suis sound design depuis plus de 20 ans. لهلا عايشة ببيروت مش كتير مطولة وهيك. Moi personnellement, et ça me fait beaucoup de peine parce que moi j'ai décidé de rester dans ce pays pendant longtemps et j'ai vraiment essayé de faire quelque chose, mais maintenant ça ne m'intéresse plus. En tant qu'être humain, ça ne m'intéresse plus d'être ici. C'est fini parce que je me sens exilée dans mon propre pays. C'est ça l'exil. C'est ça, et c'est très difficile de ne pas se sentir à la maison. Je ne me sens plus chez moi, je me sens très étrangère. Je sens que je n'ai plus le droit d'être... je ne veux même plus dire athée, hein, parce que même laïque, on n'a pas le droit. Il y a un tampon sunnite, parce que moi, je viens d'une famille sunnite, mais je n'ai pas le droit d'être un citoyen, laïque, même athée... Dire athée maintenant au Liban, je pense que ça va, c'est très violent pour tout le monde. Donc, et j'ai pas envie que mon fils soit là. J'ai pas envie. J'ai plus envie. Ça m'intéresse plus. En tant qu'être humain, ça ne m'intéresse plus. Et je sais que si je reste ici, je vais mourir. Vraiment, c'est pour ça que je vais partir. Je ne veux pas vieillir. Je me dis, et je sens que si je reste ici, je vais mourir, comme les autres. Déjà avec toutes les maladies qu'on a, maladies psychosomatiques qu'il y a dans ce pays aussi. Et c'est dans un terme très lacanien aussi que je veux partir pour exister. Parce que là, je n'existe pas. Même si j'existe et que je travaille et que j'ai un beau chemin dans ma carrière et tout ça, mais je n'existe pas. J'ai pas de son, j'ai pas de voix, je sens que ma présence... n'est pas là et que je vais tomber malade.
Je sais, oui. On tombe, on est malade. On a vécu des guerres. Moi, j'ai vécu le 4 août où toute ma maison était déchirée. Mais on est malade et ça va sortir. Mais je ne sais pas. On continue. On pense, moi, au niveau personnel. Je sais si mon fils vient me dire je veux quitter, je ne peux pas lui dire non. Je ne peux pas le convaincre de rester. Il a besoin d'ouvrir ses horizons, de trouver un lieu où il n'est pas dépressif, où il n'a pas tous ses problèmes de chaque jour, où il n'inquiète pas de ses détails, où vivre intellectuellement avec une ouverture et de découvrir le monde. Il a le droit. Je ne peux pas lui dire non. Mais moi, au niveau personnel, je voyage, j'ai beaucoup voyagé, j'ai vu beaucoup de pays, j'ai visité beaucoup au monde. Je ne veux pas quitter maintenant. Je veux trouver à quel point on peut arriver dans cette situation. C'est dur, je sais, c'est dépressif. On essaye de continuer. Jusqu'à un moment, je ne sais pas. Peut-être un jour, je me réveille et je dis... c'est pas un pays, c'est un bordel, excusez-moi, je dois partir.
Non seulement vous n'avez pas envie de quitter, mais vous voulez rester en fait.
Oui, oui, oui. Je veux rester car si tout le monde quitte, qu'est-ce qu'il reste ici? Je ne sais pas. Il reste ces politiciens qui sont en train de vivre dans ce pays. Mais c'est notre pays. J'ai envie de vivre dans mon pays. J'ai passé 8 ans hors ce pays et je n'ai pas envie de quitter. J'ai vécu tout ce qui se passe et j'essaye. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas envie de quitter. Ils ont envie de continuer leur vie dans leur maison, dans leur entourage, et que leurs enfants vivent dans leur pays. Et ce n'est pas à eux de décider de nous pousser à quitter.
Vous savez, je suis peut-être protégée du fait que je n'y crois pas depuis très longtemps. Et je parlais à un pianiste aussi dans une émission il y a 2 jours de Bach et du contrepoint. Et je disais que certains vous disent que Bach c'est merveilleux parce que pour un croyant, d'écouter la Passion selon saint Matthieu, c'est aller au ciel, les oreilles bien, bien présentes. En fait, je crois que quand on ne croit pas, ce qui est mon cas, c'est encore plus merveilleux, parce que c'est une prière sans foi. Et pour moi, le Liban, c'est ça. Je n'y crois pas, mais il y a quelque chose qui ne demande pas mon avis, et qui est beaucoup plus intéressant, c'est humainement ce qui se passe sur ce territoire qu'on appelle le Liban, et qui est une expérience tout à fait inouï. Et donc, de ce point de vue-là, c'est presque métaphysique, l'expérience libanaise, pour moi. Et donc, je comprends très bien tous ceux qui autour de moi me disent « on s'en va », je les comprends. Moi, je dirais que plus ça va mal, plus je resterai, parce que je suis privilégiée d'une part, donc j'ai de quoi manger, de quoi vivre, et que je travaille avec des gens qui, eux, sont vraiment en difficulté, et on voit la différence que ça fait pour eux d'être entendus. Ils manquent de voix, tous ces gens. Peut-être que si je prends encore un peu la parole, c'est chaque fois avec l'envie de faire entendre un peu la leur.
Merci à Sarah Eldakash, Mathieu Kairouz, Tarek Tomé, Maher, Myriam, Mahmoud, Gabriel Kerala, Marita Aboujaoudin, Gérard Bitard, Camille Amoun, Yana Samarani, Anthony Samrani, Caroline Hayek, Rana Ed et Dominique Edé. Merci également à Naja et Christophe Giudice. Et merci à Florine Osvater pour son aide à la préparation de l'émission. Voix de traduction, Rafik Zénine, Assia Weber et Baptiste Murier. Documentation, Anne-Lise Signoret, Archivina, Emmanuel Luccioni. Prise de son, Yvan Charby. Mixage, Éric Boisset. Chargé de programme, Marivana Bolivier et Anaï Morales. Coordination, Johanna Bedeau. Liban, présent brûlé, une histoire contemporaine, un documentaire d'Adrien Chevrier et Séverine Cassard. À suivre, 3e épisode, octobre 2019, l'espoir d'une révolution.